Radio Barque, on continue un petit peu pour cette seconde partie ce que l'on n'avait pas achevé dans la première, à savoir, vous avez, Bertrand Malky, expliqué grosso modo comment les choses vont se passer, mais comme toujours, vous l'avez dit également, il y a de nombreux bâtiments avec de nombreux propriétaires, et c'est là où même quand on parle d'expropriation, les difficultés surgissent. Il y a eu une petite difficulté ou une qui est en train de surgir.
Oui, c'est à la marge. Une personne ne se rend pas compte que l'intérêt privé, c'est l'intérêt général qui prime dans toute action publique. Aujourd'hui, on a proposé des solutions qui sont parfaitement intelligibles du plus grand nombre. Aujourd'hui, la puissance publique voit le pont des marchands comme, je vous le disais en préambule, comme un patrimoine collectif à sauvegarder.
Vous avez le soutien de l'État dans
cette
affaire.
On a le soutien de l'État, on a le soutien quand je passe, j'emprunte la rue du pont des marchands tous les jours.
Y compris financier, je crois que le sous-préfet vous a apporté.
Des commerçants, des propriétaires. Certains propriétaires qui ne sont pas concernés par cette première partie sont venus nous voir spontanément nous demandant de racheter également leur immeuble. La ville ne fait pas d'opération immobilière, la ville fait une opération patrimoniale en réhabilitant les commerces, en recomposant les espaces dans la géographie de la rue du Pont, en reconstruisant la partie habitation. On va redonner à cette rue du Pont des Marchands son lustre passé. Les habitats seront reconstruits, réhabilités et remis à la location. La ville gardera la propriété, comme c'est le cas de la rue Jean Jaurès, et aura un patrimoine immobilier. Ça sera beaucoup plus facile à entretenir. Et j'imagine, moi, demain, une fois ces travaux réalisés, la ville qui sera propriétaire va pouvoir y installer des lumières, une sonorisation, et demain, eh bien, nous aurons un son et lumière sur la rue, sur et autour de la rue du Pont des Marchands. On va transformer cette carte postale en revoyant les façades également. Nous allons retravailler pour en faire celle qu'elle était en son temps.
Oui, et ça c'est le côté alors patrimonial et historique qui va être mis en valeur, mais on s'en est aperçu lorsque la rue des Marchands a été fermée, que c'est également presque une artère dans la circulation piétonne de la ville.
C'est ça. Vous touchez du doigt une réalité que l'on sous-estimait. En fermant, parce que le juge administratif nous l'a ordonné, la rue du Pont des Marchands, c'est les Quatre Fontaines, c'est la Parerie, c'est l'hypercentre côté cité avec la place de l'Hôtel de Ville, la rue droite, la rue de l'Ancien Courrier, qui ont été perturbés. En changeant les habitudes de passage par la rue du Pont des Marchands, on s'est aperçu que c'était toute la chalandise du cœur de ville qui était perturbée avec des pertes de chiffre d'affaires pour les commerçants. Donc c'est un poumon économique, la rue du Pont des Marchands, pas seulement par les commerces qui composent son habitat, mais également par ce drain commercial et le fait qu'elle inonde l'hypercentre. Elle est touristique, elle est commerçante, elle est indispensable parce qu'elle est aussi patrimoniale. Et c'est dans ce sens, et avec cette seule logique en tête, que la puissance publique a pris cette décision. Et quelles que soient les velléités de quelques-uns et d'une minorité qui veulent défendre, c'est leur liberté, leur juste choix de défendre leur intérêt privé. L'intérêt général primera dans nos décisions.
Oui, oui. Et voilà donc finalement qui apporte encore plus de l'eau au moulin, si je puis dire, de ce pont, à savoir que c'est une réalité, certes historique, patrimoniale, mais également économique de premier plan.
Exactement.
Pour le centre-ville de Narbonne. Alors centre-ville, pas loin de là, à quelques dizaines de mètres, il y a encore un chantier qui dure aussi certainement trop au goût de certains. C'est alors la verrière, la marquise du Monoprix.
La marquise des Dames de France, dans
oui.
Son ensemble, dans son intégralité, c'est là aussi un objet patrimonial. Les Narbonnaises et les Narbonnais y sont attachés, début du XXe siècle. C'est ce style Eiffel un petit peu sur le palais Vicomtal, c'est une marquise où là aussi la ville a pris les devants, a pris en main ce dossier pour réaliser les travaux. Des travaux complexes là aussi, puisqu'il y a eu du désamiantage, il y a des métiers d'art qui sont difficiles à obtenir et des ouvrages sur des matériaux pardon qui sont difficiles à obtenir et qui font la complexité de ce dossier. On en voit le bout du tunnel, il y a les marchés ont été passés et aujourd'hui on a une perspective de livraison à l'été 2025. Et il me tarde l'été 2025, Jean-Claude Jules, parce que l'été 2025, la place de l'hôtel de ville sera débarrassée des échafaudages dans la rue du Pont des Marchands, puisque l'objectif c'est pour le mois de juin que la ville de Grand-Narbonne soit propriétaire de l'ensemble du bâti. Donc nous aurons une déambulation dans le Pont des Marchands avec des habillages de vitrines le temps des travaux qui va rendre agréable la promenade de la rue du Pont, et nous arriverons sur une place de l'hôtel de ville sans échafaudage avec une marquise complètement rénovée qui brillera avec sa nouvelle configuration, et nous aurons je pense un été 25 qui fera pétiller les yeux des Narbonnaises et Narbonnais d'abord, mais également des touristes.
Voilà, donc une concentration encore plus grande de patrimoine finalement.
Exactement.
en quelques mètres. À remarquer aussi que là c'est peut-être moins complexe, mais il y a également un problème de propriété sur cette verrière.
Oui. C'est alors c'est une question juridique très technique qui devrait pas trop intéresser vos auditeurs, mais les propriétaires contestent la propriété de la marquise.
Ça peut retarder les travaux.
Non, pas
non,
du tout.
Non.
On a pris la main sur les travaux, on coordonne et on fait à frais avancés les travaux de la marquise le temps que la décision juridique soit tranchée par le juge administratif. Très simple pour le schématiser, la marquise est appuyée sur la façade privée d'un côté, et ses pieds reposent sur l'espace public. Donc la notion d'immobilier par destination, est-ce que le fait qu'elle soit imbriquée dans les parties privatives, c'est-à-dire la façade des immeubles privés, est-elle privée par destination, ou bien comme elle repose
comme elle
par ses pieds
dans le
sur
public.
L'espace public, est-elle par destination sur l'espace public. Voilà, donc ça c'est le juge administratif qui tranchera. On n'allait pas attendre les années qui passent avec cette verrue complémentaire. Il fallait trancher, nous avançons.
Alors Bertrand Malquier, certains auront remarqué aussi depuis que vous êtes arrivé à la mairie que l'automne à Narbonne devient une saison très dense des salons.
Oui.
Alors il y en a un qui se déroule, alors il n'est pas organisé par la ville celui-ci, c'est le salon des maires, mais il y a pas mal alors il y a eu un salon du Grand Narbonne, un salon de l'agriculture qui est prévu, une foire au vin, et certains en plus se déroulant au parc des expos, comme si le parc des expos était une sorte de revenant.
Il refait une jeunesse, lui aussi. Il refait une jeunesse puisque le parc des expos a été repris en régie, c'est nous qui le gérons, et effectivement,
le Grand Narbonne.
C'est le Grand Narbonne qui le gère, et aujourd'hui on est très dynamique dans la politique d'attractivité, dans le tourisme d'affaires, ce qui s'appelle le tourisme d'affaires, le tourisme événementiel, et donc entre l'aréna et le parc des expos, effectivement le calendrier est très chargé. Nous avons accueilli le congrès des experts comptables de l'Occitanie, 1400 experts comptables qui sont venus passer deux jours à Narbonne. Nous avons eu le salon du camping-car, nous avons les rendez-vous traditionnels. Il y a un salon de l'agriculture qui se dessine sur le deuxième week-end de novembre. Ça va être la première édition d'un salon de l'agriculture. C'est un salon qui vient en aide à nos agriculteurs et plein de surprises. Les enfants, là, on pourra venir en famille, vous verrez tous les animaux de la ferme. Vous comprendrez le bien manger, le manger local, les produits sains, les produits de nos terroirs. C'est une grande vitrine du territoire du Grand Narbonne et au-delà, du territoire audois. Et la semaine avant, le premier week-end de novembre, il y a aussi Fiesta Vino. C'est le salon de nos viticulteurs, de la viticulture, du vin et de la vigne. Il a été fait en partenariat avec Frédéric Rouanette, le président du syndicat des vins, et avec Aude à la Vigne. C'est un salon sur lequel nous accompagnons financièrement. Ça fait partie d'un plan Marshall de soutien à la viticulture. C'est faire reconsommer nos habitants, nos touristes, refaire découvrir nos vins, redonner goût à la consommation de ce travail de la terre, à ce travail de l'histoire. Là aussi, c'est 2000 ans d'histoire à la vigne sur notre terroir. Et donc, on voulait leur donner une belle vitrine. Ils seront à l'Arena, le salon du vin, le Fiesta Vino. Il sera dans une ambiance conviviale, pédagogique. Là aussi, ça sera familial. Et nous y tenons. Narbonne va être maintenant une terre de destination de ces salons professionnels, de ce tourisme d'affaires. Et la viticulture, on y reviendra, mais là aussi, on décline plusieurs opérations pour être à leur côté, notamment, et vous avez peut-être entendu parler, sur les problèmes de sécheresse, le changement climatique et le problème hydrique qui tue aujourd'hui les jeunes plantiers, mais pas que, les vignes sur nos paysages.
Et alors, par un heureux hasard, finalement, tout se déroule dans ce quartier qui est devenu prestigieux parce qu'il regroupe autant d'équipements prestigieux, théâtre, aréna, parc des expos.
Tout se complète. Tout se complète. Aujourd'hui, l'aréna est en format T. Le format T, qui est un format administratif, permet d'accueillir des salons, des expos. Mais les gens ont besoin de modularité et donc, il y a les réceptifs du parc des sports qui permettent d'aller en configuration. Il y a une configuration plénière qui peut se faire à l'aréna, puis des salons pour faire des ateliers de travail dans les salons de 200 mètres carrés, les trois salons du stade du parc des sports et de l'amitié. On a un réceptif qualitatif également du côté du Narbovia avec un amphithéâtre, avec de quoi se restaurer. On a le parc des expositions qui est modulé. On a le théâtre avec les salles du théâtre. D'ailleurs, il y a une deuxième salle de cinéma qui va voir le jour au Théâtre Scène Nationale. Donc, on a tous ces équipements qui se complètent. Pour nous, le tourisme d'affaires, il est indispensable. Aujourd'hui, nous avons les outils, mais nous avons également derrière des retombées économiques importantes pour nos restaurants, pour notre hôtellerie, pour nos chambres d'hôtes, pour ceux qui vivent de cette dynamique.
Finalement, c'est l'aboutissement d'années d'empilement de travaux, si je puis dire, et de projets.
Oh, c'est ça, parce que on commence dans les années 70 avec le stade, et donc c'est 40 ans de travaux et 50 ans même de décisions qui ont amené à avoir un quartier, une ville. Je le dis souvent d'ailleurs, la plus petite ville des grandes villes d'Occitanie, mais la plus équipée de toutes. Narbonne est suréquipée et on le doit ça à cette politique lancée en 1971 par Hubert Mouly, un équipement structurant majeur par mandat. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes arrivés au terme puisque nous avons tous les équipements nécessaires à la ville de Narbonne. Les développements futurs seront très différents puisque ça sera améliorer le cadre de vie de façon harmonieuse.
Voilà, il reste alors des projets peut-être d'ampleur moindre, en tout cas sur le plan financier, mais pas moindre sur le plan du confort. À propos, puisqu'on a énuméré un certain nombre de projets, et il y en a un sur ce qu'on appelle le carrefour des plages qui doit devenir un rond-point.
Oui, alors c'est parti d'une réflexion où là aussi on travaille sur les mobilités. Le vélo est important, il faut encourager les gens à la pratique du vélo. Et il est vrai, je pratique le vélo et c'est vrai que quand c'est dangereux, moi je suis avec les enfants, 6 ans, 10 ans et 12 ans, donc c'est jamais facile. Je suis jamais en confiance absolue parce qu'il faut traverser des routes, parce qu'on n'est pas au niveau des pays scandinaves où le vélo est fait en sécurité. Donc rien n'invite au vélo, c'est pour ça qu'au Grand Narbonne, on a doublé cette année le budget pour les pistes cyclables. On est passé de 1 à 2 millions d'euros et on va entrevoir, je proposerai aux élus d'aller encore plus loin dans cette démarche. De la même façon, à Narbonne, j'aimerais qu'on termine ce que l'on a commencé, pouvoir relier la gare aux équipements justement des quartiers Est et avoir des pistes sécurisées, des pistes agréables qui invitent à consommer, à prendre le vélo pour se déplacer. Et dans ce cadre-là, eh bien, le carrefour des plages, c'est un carrefour, c'est une espèce de patatoïde mal défini, où il va y avoir une piste cyclable qui va permettre de relier l'ensemble. Et là, on a un travail qui est en cours, là, où les gens ont cru qu'on allait faire des abattages, c'est des marques d'élagage qui ont été...
Oui, il y a des marques sur les arbres.
C'est des marques d'élagage.
Ceci expliquant cela.
Ouais. Et quelques arbres qui sont malades, il y a une dizaine d'arbres malades, bon, qu'on voit, hein, qui menacent de tomber ou qui sont malades, qui vont être traités. Mais chaque fois qu'on fait des opérations qui vont dans ce sens, c'est un bilan positif à la fin, puisqu'on replante des essences nouvelles. Et donc voilà. Mais l'idée de ce carrefour des plages, c'est vraiment de faire le trait d'union qui manquait pour sécuriser complètement le parcours cyclable et aller au stade en vélo, aller au théâtre en vélo, aller à l'aréna en bicyclette demain.
Voilà, bonne nouvelle pour les cyclistes de Narbonne et du Grand Narbonne. On marque, Bertrand Malquier, une seconde pause.